Voilà, alors tout d'abord quelques explications préliminaires, dans la mesure où le titre de ma contribution s'explique par un point de vue comparé avec l'Ancien Testament, dans lequel le thème de la vieillesse est particulièrement présent. Et dans le Nouveau Testament, ce qui frappe, c'est que ce thème est relativement peu présent. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord un inventaire, c'est-à-dire essayer de repérer les textes où il est question de vieillard ou du vocabulaire de la vieillesse ou un vocabulaire apparenté. Je vais faire le constat d'une présence donc très discrète de ce thème. Et alors que d'autres contributions jusque-là, ou je dirais les autres contributions jusque-là, ont choisi un cas d'école pour illustrer le thème, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de réfléchir à la raison de cette présence très discrète du motif de la vieillesse dans l'Ancien Testament. Donc, ça va être une approche un peu différente, si vous voulez. Et donc, il y aura une première partie qui sera un inventaire des textes où il est question de près ou de loin de la vieillesse, et puis une réflexion qui suivra sur quelques lignes de force qui m'apparaissent. Voilà. Alors, donc je commence ma contribution. Comme l'indique donc le titre, le thème de la vieillesse est particulièrement discret dans le Nouveau Testament. Il se décline essentiellement autour de trois familles de mots. Nous allons les étudier amplement. Alors, la première est constituée de termes de la famille de Géron, qui veut dire vieillard, et de Géras, qui désigne la vieillesse. C'est ainsi que Nicodème, en Jean 3, 4, se demande, alors que le Jésus johannique l'invite à naître de nouveau ou d'en haut, comment il est possible qu'un humain puisse naître, alors même qu'il est vieux. Et Nicodème manifeste à l'occasion qu'il est décidément incapable de comprendre l'offre que lui fait Jésus, en s'interrogeant lui-même sur la manière dont un humain pourrait entrer dans le sein de sa mère une deuxième fois et de cette façon naître. Autre exemple de l'emploi du même terme Géras, il est appliqué à Élisabeth et il est indiqué au seuil de l'évangile selon Luc qu'elle est enceinte d'un fils, le futur Jean-Baptiste, dans sa vieillesse, alors même qu'elle était stérile jusque-là. Autre terme de la même famille, le substantif Gerousia, qui désigne l'assemblée des anciens, des fils d'Israël en l'occurrence, et ce terme se trouve associé au Sanhédrin en Actes 5, 21. Cette Gerousia est une instance appelée par les grands prêtres à se prononcer aux origines même du mouvement chrétien naissant, sur les exactions imputées aux apôtres à travers leur prédication avec laquelle les 10 apôtres ont renoué après avoir été libérés miraculeusement de prison sans que les grands prêtres ne le sachent. Enfin, en Jean 21-18 et en Hébreu 8-13, apparaît le verbe « gerasco », devenir vieux, vieillir. Dans le premier de ces textes, il permet d'évoquer la destinée de Pierre qui, quand il aura vieilli, étendra ses mains et sera saint par un autre que lui-même pour être conduit là où il ne voudra pas, en l'occurrence à une mort prenant la forme d'une crucifixion qui se caractérisait par une extension des mains. Et donc, il va être conduit là où il ne voudra pas, alors même que quand il était plus jeune, vous voyez, il y a une opposition entre quand tu seras vieux et puis quand tu étais jeune, alors que quand il était plus jeune, il se saignait lui-même et allait là où il voulait. Dans le second de ces deux textes, Hébreux 8, 13, il est question, en association avec deux emplois du verbe « palaio », qui relève de la deuxième famille de mots que nous allons prendre en considération, d'opposer la première alliance et l'alliance nouvelle, cela en faisant valoir que Jérémie, En parlant d'une nouvelle alliance, dans une prophétie qu'on trouve en Jérémie 31, 31, 34, a rendu ancienne la première, en vertu du principe selon lequel ce qui est rendu ancien et ce qui vieillit est proche de la disparition. Pardon, j'ai oublié de vous le donner, le texte, donc il était là. Je vous laisse un peu de regard. Voilà, alors, la deuxième famille de mots dont nous venons d'avoir un premier aperçu avec le texte d'Hébreux est constituée par les termes de la famille de Palaios, qui veut dire ancien. Dans les évangiles, cet adjectif apparaît surtout en lien avec la parabole du vin nouveau que l'on ne saurait mettre dans de vieilles outres, car ce vin nouveau en requiert de neuves, et de la parabole de la pièce de drap écrue que l'on ne saurait coudre sur un vieil habit sans provoquer une déchirure pire que la première. À cela s'ajoute le fait que, en Matthieu 13, 52, le scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparé à un maître de maison qui tire de son trésor à la fois du neuf et du vieux. Dans les épîtres pauliniennes aussi, on constate une nette propension à opposer le neuf et l'ancien, ce qui est nouveau à ce qui est vieux ou désormais vieilli. C'est ainsi que Paul parle du vieil homme des croyants qui a été crucifié avec le Christ, si bien qu'ils vivent désormais avec lui et qu'ils vivent simultanément à Dieu, c'est ce très beau texte de Romains 6. Paul appelle encore les croyants à se purifier du vieux levain pour devenir une pâte nouvelle et les invite à célébrer la Pâque, renouvelée dès lors que le Christ a été immolé et est devenu leur Pâque. Donc à célébrer la Pâque, non pas avec le vieux levain de la méchanceté et de la perversité, mais avec des pains sans levain, de pureté et de vérité. Paul parle enfin de la lecture de l'ancienne alliance, qui semble bien destinée en l'occurrence ce qui est devenu aux premiers chrétiens l'Ancien Testament, lecture entravée par un voile qui ne tombe à ses yeux qu'en le Christ ou qu'avec le Christ lui-même. Les lettres deutéropauliniennes, donc qui n'ont pas été écrites par Paul, mais qui relèvent d'une deuxième génération de l'école paulinienne, reprennent la thématique du vieil homme pour faire valoir en Colossiens 3, 9, 10 que les croyants se sont dépouillés du vieil homme avec ses pratiques pour revêtir l'homme nouveau qui ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. La formule de Colossiens est paraphrasée en Éphésiens 4, 22-24, où il est à nouveau affirmé que les croyants doivent se dépouiller du vieil homme pour être renouvelés et pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. En comparaison, le témoignage de la première épître de Jean peut sembler se distinguer de celui des textes évangéliques et pauliniens. De fait, l'auteur y fait valoir aux destinataires, tout en leur enjoignant de s'en tenir à l'amour fraternel, qu'il ne s'agit pas là d'un commandement nouveau, mais d'un commandement ancien qu'ils possèdent depuis le commencement. Il précise toutefois dans la foulée que ce commandement est néanmoins nouveau, et que cela est vrai en lui et en eux, le pronom à la troisième personne du singulier, lui, donc, désignant selon toute vraisemblance le Christ, en lequel s'enracine la parole, qu'ont entendu les destinataires. La première épître de Jean, rédigée à la fin du premier siècle, instaure ainsi, nous aurons l'occasion d'y revenir, un rapport particulier à la nouveauté induite par le message déjà entendu, ce message désormais ancien, il s'est écoulé près de 70 ans depuis le ministère de Jésus, n'en demeure pas moins nouveau, dès lors qu'il s'agit désormais pour les croyants de marcher dans la voie même où Jésus a marché. Autre terme de la famille de Palaios, le verbe « palaio ». En Luc 12, 33, il permet, en écho aux deux paraboles du vin nouveau et des outres neuves, et de la pièce de drap écru que l'on ne saurait coudre sur un vieux vêtement, de faire valoir qu'il s'agit pour les croyants de se faire des bourses inusables, littéralement qui ne vieillissent pas, en même temps que des trésors inaltérables dans les cieux, car là où est leur trésor, là est aussi leur cœur. Le verbe apparaît encore à trois reprises en hébreu, dans le sermon aux Hébreux, hein, pour indiquer respectivement que si le Fils, en l'occurrence le Christ, demeure, les cieux et la terre vieilliront, quant à eux, tel un vêtement, et que, en parlant d'une nouvelle alliance, Jérémie a rendu la première ancienne, et ce qui est ainsi rendu ancien a vocation à disparaître. Dernier mot de la famille de Palaios, le substantif palaiotès permet d'affirmer en Romains 7,6 que, affranchi de la loi et mort à ceux qui les tenaient captifs, les croyants servent désormais dans la nouveauté de l'esprit et non plus dans la vieillerie ou sous le régime périmé de la lettre. Une troisième famille de mots est à prendre en considération, ceux de la famille de presbus, adjectif qui signifie « ancien » et qui est toujours employé dans le Nouveau Testament au comparatif, « presbutéros ». Luc 15, 25 peut ici être laissé de côté, puisque « presbutéros » y désigne en fait l'aîné de la parabole du fils perdu et retrouvé, fils qui n'est autre, quant à lui, que le fils puiné. En Hébreux 11, 2, les anciens désignent les pères de la foi, soit tous ceux dont la Bible hébraïque rappelle les hauts faits et dont la suite du chapitre va vanter la foi par laquelle ils ont agi. De manière plus limitative, les anciens sont conçus comme ceux qui sont à l'origine de la tradition orale en Marc 7,3 et en Marc 7,5. Mais ce sont le plus couramment des personnages contemporains qui sont désignés par ce terme de presbytéroi, sans qu'il soit possible d'établir s'ils sont forcément des vieillards. Il faut revenir là-dessus. On peut appeler des gens anciens sans qu'ils soient forcément vieillards. C'est ainsi que dans les évangiles synoptiques, le pluriel presbytéroi sert à distinguer, dans l'immense majorité des cas, un des groupes siégeant au sein du grand Sanhédrin de Jérusalem. Tel est encore le cas dans différents passages du livre des Actes. Cela étant, dans ce même livre des Actes, le même terme, presbytéroi, en vient à désigner, au sein même des communautés chrétiennes qui se sont formées, un groupe qui s'y est constitué. Une première mention en est faite à Jérusalem en Actes 11-30, mais il est rapidement indiqué que des anciens sont désignés par Paul et Barnabas dans chaque communauté qu'ils fondent. Les anciens de l'Église primitive de Jérusalem jouent ensuite, aux côtés des apôtres, un rôle majeur lors de l'Assemblée de Jérusalem, et leur décision est transmise par Paul et Silas aux communautés qu'ils fondent. Paul fait convoquer plus tard les anciens de l'Église d'Éphèse, une communauté qu'il a établie entre-temps, cela avant de retrouver en Actes 21-18 les anciens de l'Église primitive de Jérusalem lorsqu'il revient dans cette ville. Les anciens sont encore présents dans les épîtres, mais pas dans celles dont l'attribution à Paul est incontestée, ni d'ailleurs dans les épîtres deutéropauliniennes. On les rencontre en fait dans les épîtres tritopauliniennes, qui sont encore plus tardives et qu'on appelle les pastorales, et il est expressément préconisé en Tite 1.5 d'achever l'organisation de l'église de Crète en établissant dans chaque ville des anciens. Mais en 1 Timothée 5.12, il est simplement question, à travers le comparatif presbytéros, des vieillards et des femmes âgées, qu'il s'agit de traiter avec ménagement et douceur, le comparatif étant en l'occurrence employé au sens le plus général, comme aussi en Actes 2.17, où est reprise la prophétie du livre de Joël, dont le Pierre des Actes affirme qu'elle connaît son accomplissement lors de la Pentecôte. On retrouve les anciens en tant que groupe ayant vocation à être respectés au sein des communautés chrétiennes en 1 Pierre 5.1 et 5, tandis que Jacques 5.14 recommande à celui qui est malade d'avoir recours à ses anciens afin qu'ils prient pour lui, après avoir effectué sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. Enfin, dans l'Apocalypse, 24 anciens, dont l'identification peut laisser place à une certaine souplesse d'interprétation, même s'il s'agit assurément de pères de la foi, sont présents. Cela est dit, on peut penser soit aux ancêtres des 12 tribus de l'ancien Israël et à leurs homologues au sein de l'Église, soit à 12 figures prophétiques représentatives de l'Ancien Testament et aux 12 apôtres, soit encore à toute autre combinaison du même type. Je ne vais pas me lancer plus loin dans une étude de définition ici. Toujours est-il que ces anciens siègent sur autant de trônes, autour du trône de Dieu, et se prosternent devant le vivant, donc devant Dieu, et devant l'agneau, le Christ, ou bien se trouve implicitement associé au culte qui leur est rendu, quand il n'est pas indiqué que l'un d'entre eux prend la parole pour rassurer ou pour interpeller le voyant qui est celui qui a la vision. Faisant exception par rapport à l'usage généralement pluriel du terme, usage que confirme le fait que, comme nous venons de le voir dans l'Apocalypse, il est question à 2 reprises de l'un des anciens, eh bien, la 2e et la 3e épître de Jean commencent pour leur part, l'une et l'autre, par une prise de parole de l'ancien, vous voyez, au presbytéros, ancien qui se revêt de toute l'autorité qui revenait sans doute au premier et plus ancien témoin de la tradition apostolique, pour s'adresser à la communauté de Jean ou à un personnage singulier, en l'occurrence le dénommé Gaius, en 3 Jean. Il reste à mentionner, mais le cas est marginal, car la péricope est assurément secondaire, que dans l'épisode de la femme adultère, il est précisé que ce sont les plus âgés qui se retirent les premiers, après que Jésus renverse la situation, devant a priori conduire à la lapidation de la femme, en invitant celui qui n'a jamais péché à lui jeter la première pierre. Alors, la même oscillation que l'on rencontre à propos de presbytéros entre la désignation d'un collège destiné et investi de responsabilités plus particulières, soit au sein du judaïsme, soit au sein du mouvement chrétien naissant, se retrouve dans l'emploi du substantif presbytérion, l'assemblée des anciens. De fait, l'auteur de Lucacte emploie ce terme presbytérion pour désigner le grand Sanhédrin de Jérusalem, alors que 1 Timothée 4.14 l'applique à un collège d'anciens qui a été appelé, au sein d'une communauté chrétienne, à imposer les mains sur le jeune Timothée, lui conférant le don de la grâce et du même coup une dignité qui doit le conduire à être lui-même un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté, et à être tenu pour tel. Outre les 2 termes presbytéros et presbytérion, 2 autres dérivent encore de presbus. Il s'agit de presbutès et de presbutis. C'est ainsi que Zacharie est présenté au seuil de l'évangile selon Luc, en Luc 1.18, comme un vieillard presbutès, qui n'a plus aucun espoir d'enfanter. Cantique 2, 2 et 3, les vieillards et les femmes âgées sont appelés au comportement exemplaire qui leur sied. Et qu'en Philémon 9, Paul, phénomène unique dans ses lettres, se présente comme un vieillard, presbutès, pour supplier Philémon de se montrer bienveillant envers Onésime, l'enfant que lui-même, Paul, a engendré dans la foi en prison, enfant dont il espère que celui qui a jusque-là été son maître, puisque Philémon était auparavant le maître d'Onésime l'esclave, eh bien, donc, enfant dont Paul espère que Philémon acceptera de le délier de sa condition d'esclave pour le tenir à son tour en tant que frère bien-aimé et que chrétien. J'en ai fini avec mon inventaire, ou presque. Il reste à présent à parler d'autres figures qui sont manifestement des vieillards, mais qui ne sont pas appelées directement telles. Alors, donc, on peut ajouter à cet inventaire plusieurs expressions qui, dans le récit de l'enfance qui ouvre l'évangile selon Luc, signalent que les personnages mis en scène sont avancés en âge. Tel est le cas d'Éluc 1,7, d'Anne et de Zacharie, qui sont tous deux avancés en leur jour. D'Élisabeth, pardon, et de Zacharie, je vous demande pardon. Zacharie étant pour sa part stérile. Le tableau ainsi décrit et les termes employés évoquent de manière frappante la situation d'Abraham et de Sarah, telle qu'elle est décrite en Genèse 18,11, ce qui est très intéressant. Abraham et Sarah sont à l'origine du peuple, et voilà qu'à l'origine d'une nouvelle histoire, vous trouvez deux personnages qui sont dans une situation similaire. Luc 1,18 et Luc 2,36 enfoncent le clou en répétant que Élisabeth et Anne sont très avancées en âge. Quant à Siméon, il est présenté à son tour comme un personnage au crépuscule de sa vie, dès lors qu'il est précisé qu'il lui avait été révélé par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il ait vu le Messie Seigneur, et que, ayant pris Jésus dans ses bras, il peut bénir Dieu et lui dire que c'est désormais en paix qu'il renvoie son serviteur. Voilà, le relevé est définitivement fini cette fois. Et donc, au terme de ce relevé, dont j'espère qu'il ne se sera pas révélé trop fastidieux, certaines lignes de force me paraissent apparaître clairement. On peut d'abord constater que, en dehors des groupes constitués d'anciens, au sein d'instances juives comme le Grand Sanhédrin de Jérusalem ou des communautés chrétiennes, fort peu de figures individuelles de vieillards apparaissent dans le Nouveau Testament. Il y a là un premier phénomène qui nous semble clairement significatif. Le Nouveau Testament met en scène des personnages jeunes ou dans la force de l'âge, à commencer par Jésus lui-même, et met l'accent sur l'activité qu'il déploie, sur la mobilité qui est la leur, que ce soit dans le cas de Jésus lors de sa prédication itinérante en Galilée, ou lors de sa ou de ses montées à Jérusalem, ou bien pour ce qui est des hellénistes et de Paul, lors de leur activité missionnaire décrite dans les Actes des Apôtres. Les seules figures de vieillards mises en scène en tant que telles dans les évangiles le sont, nous l'avons vu, au seuil de l'évangile selon Luc. Et ces personnages, avancés en âge, apparaissent en l'occurrence porteurs d'une vieille espérance qui va désormais se concrétiser. Il est symptomatique qu'Élisabeth et Zacharie soient campés de manière telle qu'ils évoquent précisément Abraham et Sarah, qui, alors même que tout suggère qu'ils n'auront pas de postérité dès lors que leur âge leur interdit d'espérer encore enfanter, entendent envers et contre tout la voix d'une espérance qui va faire d'eux les ancêtres d'un peuple issu d'une promesse qui ne se limite pas à la seule descendance d'Israël. La présence d'Élisabeth et de Zacharie, avancés en âge et ayant fait leur deuil de toute postérité à l'oreille même de l'œuvre double que représente l'Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres, suggère ainsi que l'on va assister à un nouveau commencement. Dans cette perspective, il est symptomatique que ce commencement, qui se concrétise avec la venue du Messie que Siméon prend dans ses bras, se prolonge dans le livre des Actes avec une œuvre missionnaire qui va faire éclater les limites du seul peuple d'Israël pour s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. La commune vieillesse d'Élisabeth, de Zacharie, de Siméon et d'Anne se trouve ainsi à l'origine d'un nouveau départ qui va consister, avec la naissance de Jean-Baptiste, puis avec celle de Jésus, et avec l'essor missionnaire qui va s'inscrire dans la suite même de la proclamation et de l'action de Jésus, en l'avènement d'un nouveau peuple et en l'accomplissement de l'attente ancestrale d'Israël. Avec la présentation particulière qu'il propose, l'auteur de l'ensemble Luc-Acte suggère à sa manière ce que font aussi les autres évangélistes, et tout particulièrement Matthieu, en mettant en avant le thème de l'accomplissement de l'Écriture. La venue de Jésus, si elle instaure une ère nouvelle, s'inscrit en fait dans une longue et vieille histoire en dehors de laquelle il est impossible de la comprendre. C'est ainsi que l'on peut saisir aussi le sens de tous les passages dans lesquels ce qui est neuf ou nouveau est mis en tension avec ce qui est vieux et ancien, qu'il soit question de vin, d'outre, de vêtements ou encore d'alliance. La venue du Fils et l'effusion de l'Esprit viennent créer les conditions d'une création nouvelle qui ne saurait se comprendre indépendamment de l'ancienne. Elle se caractérise par un élan de nouveauté qui s'inscrit dans la ligne même de promesses dont le caractère ancien et vénérable et la force prodigieuse sont incarnés en Luc 1-2 par les figures de vieillards qui ont été portés par ces promesses, qui ont cru qu'ils n'en verraient pas la concrétisation et qui vont pourtant, contre toute attente et contre toute espérance, assister à cette réalisation. Dans ce cadre, comme nous l'avons déjà souligné, ce sont des héros pleins d'allant et dont l'énergie ne se dément jamais, qui sont les porteurs de la prédication nouvelle enracinée dans les anciennes promesses. Et il est frappant de constater que ce n'est qu'à de très rares exceptions sur lesquelles nous reviendrons qu'est évoquée la vieillesse des porteurs ou des héros de la bonne nouvelle de la première génération. En attendant, on peut faire un pas de plus et noter que le thème même du dépouillement du vieil homme en vue de revêtir l'homme nouveau, thème amorcé dès les épîtres authentiques de Paul en Romains 6, avant d'être développé dans les épîtres deutéropauliniennes, contribue en quelque sorte à une occultation du motif de la vieillesse, dès lors que l'accent est placé sur une nouvelle création désormais à l'œuvre, qui permet d'accéder à une forme de nouvelle naissance. La figure de Nicodème, dont nous avons rappelé qu'il est amené à se demander maladroitement comment un homme étant vieux pourrait naître et pour se faire entrer préalablement une seconde fois dans le sein de sa mère, illustre tout le paradoxe de la nouvelle naissance. Et l'itinéraire narratif de Nicodème, que l'on retrouve ensuite encore à deux reprises dans le quatrième évangile, d'abord pour prendre implicitement le parti de Jésus face à ses confrères pharisiens qui accusent précisément Jésus, puis, enfin, pour prendre soin du corps de Jésus au soir de la crucifixion, pourrait suggérer le cheminement qui peut conduire ultimement, même après ce que j'appellerais un enfantement difficile, un homme aguerri et pétri de la tradition la plus pure à accéder à la révélation offerte par Jésus, que l'on se situe dans le cadre du quatrième évangile ou, plus largement, du mouvement chrétien naissant. Venons-en aux deux rares cas de héros de la prédication chrétienne de la première génération qui se présentent ou sont présentés comme des vieillards. Quand Paul recourt à cette présentation, c'est dans une épître bien particulière, la seule parmi les épîtres authentiques dans laquelle il s'adresse non pas d'emblée à une communauté, mais d'abord à un particulier, Philémon, vis-à-vis duquel la stratégie qu'il a à mettre en œuvre est forcément délicate. Je rappelle que ce qui est en jeu, c'est le sort d'Onésime, esclave de Philémon, qui a rejoint Paul, lui-même captif, sans doute à Éphèse. Onésime qui non seulement s'est converti à la foi chrétienne au contact de Paul, mais est encore devenu pour lui un auxiliaire précieux. Il y a des raisons de penser qu'Onésime s'était enfui de chez son maître, Philémon, peut-être même en emportant tout ou partie de la caisse, et que son cas était donc particulièrement délicat à défendre. Dès lors, la posture qu'adopte Paul en se présentant comme vieillard en Philémon 9 peut relever d'une forme de stratégie argumentative visant à susciter l'indulgence de Philémon pour des raisons que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'humanitaires. Il est vieux, pour pas trop le bousculer. Il n'en demeure pas moins que l'on a affaire, en l'occurrence, au premier exemple d'un apôtre se présentant dans un état de vieillesse. Quant à Pierre, c'est le quatrième évangile qui évoque son état de vieillesse pour évoquer à mots couverts son martyre et excuser du même coup, à demi-mot, celui qui se cache derrière la figure du disciple bien-aimé et derrière la tradition propre à cet évangile, figure qui est devenue elle-même vieille et même sans doute très vieux. Et le problème, c'est que ce disciple bien-aimé n'a pas connu la destinée de martyr, ce qui, dès cette époque, pourrait avoir été conçu par certains comme un manque. C'est ainsi que, à Pierre, à qui il révèle par quel type de mort qu'il n'aura pas souhaité, il le suivra, le ressuscité fait aussi savoir qu'il n'a pas à se mêler de ce qui ne le regarde pas, et à s'inquiéter de savoir pourquoi le disciple bien-aimé est quant à lui mort de sa belle mort. J'en arrive à ma dernière vie. Finalement, c'est dans les écrits les plus récents du Nouveau Testament que les anciens, et avec eux, si l'on peut dire, la vieillesse ou sa métaphore, font une entrée en force. Ces écrits sont les témoins d'une institutionnalisation du mouvement chrétien naissant, institutionnalisation qui a eu essentiellement pour cadre la deuxième génération chrétienne. Désormais, les communautés s'organisent et en leur sein, comme au sein des communautés juives auparavant, des responsabilités sont confiées à ceux qui ont pour eux le bénéfice de l'âge ou de l'expérience et le fait d'être porteurs d'une nouvelle tradition qui a peu à peu acquis ses nouvelles lettres de noblesse. Il convient désormais aussi de défendre cette tradition, et tant les actes des apôtres que les épîtres pastorales et les deuxième et troisième épîtres de Jean illustrent cet état de fait. Un fondement est ainsi donné pour penser une suite et l'institutionnalisation des communautés présentes et à venir. Il n'empêche, et c'est ma conclusion, que si l'on considère le Nouveau Testament dans son ensemble, la vieillesse y reste relativement peu présente. La raison en est, selon nous, qu'il y ait essentiellement question d'un mouvement qui se revendique d'une extraordinaire nouveauté, même s'il s'inscrit dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël et a vocation lui-même à s'institutionnaliser un jour. Cette nouveauté trouve sa source dans le message de Jésus relatif à l'irruption du royaume de Dieu. Un message qui, à travers l'affirmation de sa mort et de sa résurrection, et aussi à travers l'expérience de l'effusion de l'Esprit-Saint, en lequel toute nouvelle naissance trouve sa source, a généré aux yeux des premiers chrétiens, dont la voix résonne dans le Nouveau Testament, la conception selon laquelle une économie nouvelle et une création nouvelle étaient désormais de mise. Je vous remercie pour votre attention.